Manche Disque. L'émission qui tourne à 33 tours minutes.
Et bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans le Manche Disque, votre émission du disque vinyle sur Radio G, le 101.5 FM, émission un lundi sur deux de 23h à minuit. Donc une nouvelle fois, c'est Nico et bientôt Julien qui va nous rejoindre d'ici peu. Il doit être un petit peu à la bourre, mais je ne me fais pas de soucis. En tout cas, on va commencer tranquillement, comme d'habitude. On a pris cette habitude de commencer ces émissions du Manche Disque tout en douceur et ça va continuer. Je vous parle du morceau qui va suivre juste après. Écoutez à l'instant Black Pumas, ce groupe soul américain qui nous vient tout droit de Austin au Texas. Une ville que Angers, on connaît bien puisque c'est notre ville jumelle. On se rappelle tous, on a en tête tous les Austin Days et tous ces jumelages et ces échanges artistiques avec le Texas où tant de groupes de la région américains sont venus en fait s'échanger et puis nous faire traverser l'Atlantique pour pouvoir profiter de la musique des uns et des autres. Eh bien, Black Pumas ne rentre pas dans ce cadre-là. C'est un groupe maintenant qui est qui a bien assis sa réputation dans le milieu soul funk. En France, j'ai eu l'honneur de les voir pas plus tard que le 17 novembre dernier à Nantes au Stéréolux et j'ai passé une très très bonne soirée. Ça fait plaisir de voir des groupes comme ça, des bons concerts soul mais contemporains. On a tendance à bien sûr adorer la soul des années 60, mais voilà, il y a encore des groupes. Je pense aussi à Duran Johnson The Educations, qui fait partie de mes groupes favoris de soul aujourd'hui, qu'on peut qualifier de old school mais contemporaine, même si le dernier album, on l'a déjà passé dans cette émission, des Duran Jones est beaucoup plus funkisé, discoisé. Ce sont des groupes qui respectent les codes ancestraux, je dirais, et traditionnels de la soul, mais qui le font avec toujours autant d'originalité, ce qui évite de tomber dans la ringardise ou dans le mimétisme d'une époque révolue. On va continuer toujours dans la soul avec un grand patron aussi de l'histoire de la soul américaine qui nous a quittés bien trop tôt, qui a fait partie de cette espèce de grappe d'artistes qui nous ont quittés dans le contexte, alors Covid ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas dans cette période-là, j'ai nommé le fameux Bill Withers. Bill Withers qui a eu une carrière très très atypique, découverte bien sur le tard, qui avant de faire de la musique, avait un job assez particulier, d'ailleurs assez atypique pour les artistes, puisqu'il était monteur de toilettes d'avion. Voilà, donc il a passé toute une partie de sa vie à monter des toilettes dans les avions, avant d'être repéré. Notamment par un certain Clarence Avant. Je ne sais pas si ça vous parle, mais Clarence Avant, c'est le patron d'un label américain qui s'appelait Sussex Records. Alors Sussex Records, ça peut peut-être un peu vous faire sourire, et vous avez raison, puisque Sussex Records, c'est un label fondé donc par Clarence Avant et quelqu'un de beaucoup plus connu qui est Quincy Jones, que tout le monde connaît notamment grâce à ses productions de Michael Jackson, puisque c'est ça qui l'a fait vraiment connaître. Mais Quincy Jones, bien évidemment, pour ceux qui le connaissent, savent que sa carrière va bien au-delà de ça, c'est un jazzman à la base, mais il a produit des artistes tels que Frank Sinatra, donc bien avant notre cher Michael Jackson. Mais c'est vrai que c'est toute la période funk disco des années 80 qui l'a vraiment vraiment fait connaître du grand public. Quincy Jones lui-même a fait d'ailleurs des albums à cette période-là. C'était un ami de Clarence Avant et les deux ont fondé ce label, donc Sussex, qu'ils ont nommé comme ça pour une contraction de success and sex. Voilà, donc c'est comme quoi, même si c'est évocateur en français, on n'est pas si loin du compte finalement. Voilà, donc c'est un label qui a été un petit peu éphémère, on va dire, puisqu'il a été créé en 69 et il a fait faillite en 75. Mais on pense aussi donc à Bill Withers, bien sûr, mais aussi à un certain Sixto Rodriguez, le premier album de Sixto Rodriguez, qui avait été donc produit par ce label Sussex Records. Donc là, on va s'écouter un morceau donc, de Bill Withers qui s'appelle Railroad Man, qui est sur l'album Just Men's de Bill Withers. On va se découvrir ça et on va même en profiter.
Jose, you ever live near the railroad track?
Yeah.
When I was a little boy back in West Virginia, we lived very close to a railroad track. And I remember I used to dream about them trains and where they might go and the people that worked on the trains. Train made music, it made you feel good. I can remember sometime I could just stand up all by myself and just get funky listening to the train. And I used to pick up a handful of gravels and throw them down on the ground for time. Yeah, and I'd make up songs. I'd sing. He was a railroad man. Was a railroad man. He was a railroad man. Till he stepped in front of the railroad train. He rode across the plain. Rode on a fruit freight train. They hauled bananas to Savannah. Wore bandanas made in old Japan. Was a railroad man. They were a railroad man. Was a railroad man. Till he stepped in front of the railroad train. He used to change his name to every place he came. When he went to Maine.
bon vieux cher Bill Withers. Bill Withers que peut-être vous connaissez aussi pour sa contribution avec Grover Washington Jr. sur un morceau qui est ultra connu qui s'appelle Just the Two of Us. Peut-être qu'en prononçant ce titre, vous avez déjà le morceau qui vous revient dans la tête. Si ce n'était pas le cas, je vous encourage vivement, vivement à aller le chercher sur vos plateformes d'écoute favorites ou alors peut-être aussi à tomber dessus parce que c'est un morceau très connu aussi avec Bill Withers qui a beaucoup participé, qui fait la voix donc sur ce morceau du saxophoniste. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas Grover Washington Jr., qui fait partie de mes artistes favoris. Et donc sur cet album qu'on vient de s'écouter, donc, qui était Justment, ce qui ne contient absolument pas Just the Two of Us, hein, que vous trouverez plutôt sur l'album Wine Light de Grover Washington Jr. Et bien cet album est daté de 1974. Je vous propose actuellement de découvrir un artiste nigérian, mais qui a fait sa carrière à Londres, qui s'appelle Dizika Falola. Dizika Falola, que peut-être vous ne connaissez pas, mais qui, donc je l'ai dit, est donc nigérian, qui a commencé vraiment de façon très autodidacte en fait, hein, au Nigeria, dans les années 70, avant d'être repéré par un label et pas des moindres, EMI donc, et en 81 ils l'ont signé, ils ont réussi à faire donc à le faire donc intégrer leur équipe, et puis à Londres donc depuis l'Angleterre il a réussi à imposer son style bien à lui. Vous allez voir un mélange d'afro, de funk de disco. Un son très très particulier et une voix aussi, une signature vocale tout à fait particulière. Donc je vous encourage vraiment à vous pencher sur cet artiste si vous aimez bien l'ambiance dance floor, l'ambiance un peu disco, mais avec cette touche afro venue tout droit du Nigeria qui va, je l'espère, vous séduire. On va s'écouter tout de suite un morceau qui s'appelle Sweet Music.
Radio G 101.5. Radio. Miss
ce cher Dizzy K. Falola pour accompagner la venue dans les studios de Julien qui nous rejoint.
Et oui, petit retard.
En direct de Radio G.
Professionnel, excusez-moi.
Ouais, ben voilà, mais c'est normal, c'est le boulot, quoi.
Mais c'est ça,
boulot. On cumule les emplois, nous aussi, hein. Animateur radio.
Ben oui, plein c'est de trucs tout ça pour côté. Financer nos comptes sur les îles Caïmans. Et nos îles privées aussi.
Oui, parce qu'en plus, t'as raison, je compte pas les emplois fictifs en plus qui s'ajoutent à tout ça.
Oui, comme Pénélope.
Ben ouais.
Big up.
Big up, Péné.
Donc, c'est à moi de passer un petit quelque chose. Hein,
ah bah là, je crois que t'as ta série, parce que moi, j'ai fait ma série en t'attendant.
Bon, bah écoutez, je vous propose de commencer d'abord par un petit blues plein sympathique. Bien sympathique, je vais y arriver, par un des trois Kings. Hein, on connaît B.B. King, on connaît Albert King, on connaît un peu moins Freddie King. Peut-être la faute à une carrière très très courte, parce que Freddie King, je crois qu'il est mort à 42 ans, ou au début de la quarantaine, d'une pancréatite et de d'autres soucis du genre. Il était né en 34, donc vous voyez, petite carrière. Et puis c'est quelqu'un qui n'a jamais eu trop de morceaux emblématiques, qui a fait qu'il est retenu comme un des rois du blues, alors qu'il a une technique de finger picking proprement hallucinante, visiblement, enfin c'est ce que j'ai lu, hein, moi j'y connais rien. Il va avoir une belle période quand même, Freddie King, notamment chez Cotillon, qui est dirigé par le non moins célèbre King Curtis, le saxophoniste d'Aretha Franklin, qui va un peu prendre Freddie King sous son aile et qui là pour le coup lui produit cet album qui est le deuxième, hein, je crois, de Freddie King chez Cotillon en 1970, et qui va, alors est-ce qu'il en joue un petit peu? Oui, il en joue un petit peu du saxophone, il fait un petit solo, mais il est très discret, il est à la production, King Curtis, et il laisse Freddie King s'épanouir dans cette très belle galette de VMP, encore une fois, en complet analogique.
Vinyl Me Please, hein, pour ceux
Vinyl Me Please.
Qui connaissent pas,
donc là, c'est vraiment une très très belle édition, en mono, comme à l'époque, et puis à partir des sources analogiques. Donc là, on est vraiment sur un facsimilé, hein, carrément, de l'original.
Du son.
Donc voilà, super beau son.
Qualité,
Et ben, je vous propose d'écouter l'entrée en matière, hein, ça s'appelle Yonder Wall. C'est une reprise, 1970, donc Freddie King de l'album My Feeling for the Blues. faire suite à Freddie King, Johnny Jenkins, l'album Tonton m'a coûté, un album de 1970 également, à la même année que le Freddie King. On est dans un autre type de blues. Après le Texas blues, on est plutôt sur le Louisiana blues, j'ai envie de dire, le blues des marais, avec ce Johnny Jenkins, d'ailleurs qui, alors pour une fois, c'était pas le premier morceau, parce qu'il y a beaucoup de premiers morceaux des albums là que je vous ai choisi, c'était même le dernier de la face B, donc le tout dernier, Voodoo in You, mais... Pour l'anecdote, ce Tonton m'a coûté s'ouvrait avec I Walk on Gilded Splinters, qui est le fameux titre de Dr. John, le maître du blues vaudou. Donc Johnny Jenkins, en fait, c'est un peu une sorte de météore. Hein. Il est venu, il a enregistré cet album. Si je dis pas de bêtises, il a ensuite disparu limite pendant 25 ans. Il a réémergé à la fin des années 90 pour donner une suite, un nouvel album, très tardif. Et il est décédé quelques années plus tard. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas laissé pléthore d'enregistrements. Sur cet album-là, il y a pas mal de reprises d'un peu tout le monde. Hein. McKinley Morganfield, vous aurez reconnu Muddy Waters. Il y a également du Bob Dylan. On avait dit du Dr. John. Mais voilà, c'est un album plutôt intéressant, assez puissant, dont je vous proposais le morceau Voodoo in You.
Ah, un morceau presque un petit peu rock, hein, quand même.
Ouais, tout à fait. Hein, ça déborde un peu.
Ça déborde un petit peu, ouais. Là. Et puis lui, il a une façon de chanter très Jimi Hendrix, je trouve.
Ah oui, oui. Oui, d'ailleurs, il cultivait, j'en sais rien, mais il y avait cette petite ressemblance jusque dans le physique aussi.
Qui a inspiré l'autre. Effectivement, je vois la cover, là, je vais la décrire un peu pour les auditeurs. Ouais. On a une petite veste fleurie avec un chapeau.
Ouais.
Qui rappelle aussi effectivement
gypsy,
un certain style un peu
gypsy, voilà, etc. Effectivement. Alors, on va traverser la Manche pour ce troisième morceau, mais on va rester vraiment dans un mouchoir de poche, un nutshell, on pourrait dire, à l'anglaise, puisque c'est un album de 1971 de Fuzzy Duck. Alors, Fuzzy Duck, c'est également des météores. Hein. Les mecs ont enregistré un album, et puis voilà. Alors après, bon, j'imagine que si on fait une recherche et qu'on fait un vrai boulot de préparation d'émission, on découvrirait qu'un tel a joué dans ce tel groupe et un tel a chanté dans tel autre, etc. Là, en tout cas, l'entité Fuzzy Duck, c'est un album. Un album que s'arrache les collectionneurs dans sa version d'origine, puisqu'il atteint, je ne sais plus, des centaines, peut-être des milliers d'euros, je ne sais plus. Il a été réédité à droite, à gauche. Moi, si j'avais un conseil, c'est cette réédition-là que je vous conseillerais, qui est de Be With Records. C'est une réédition de 2020. Il y en a eu une un petit peu plus récente, 2021, chez des Italiens. Elle est plutôt décriée. Le disque aurait été enregistré à la mauvaise vitesse. Manque de relief. Enfin, voilà, c'est vraiment pas top. Et ce qui est malheureux, c'est que, par contre, les Italiens, dont je ne sais plus comment ils s'appellent, ont fait, eux, une super belle pochette. Parce que c'est une pochette quand même qui vaut le coup. C'est une espèce de canard hippie avec un pétard dessiné, quoi.
Un Fuzzy Duck, quoi.
Un Fuzzy Duck, exactement. Alors, les Italiens ont réussi la pochette parce qu'ils ont fait une vraie pochette épaisse à l'américaine avec, voilà. Alors que Be With Records, c'est un petit peu flou, c'est moins bien, de moins bonne qualité, mais le vinyle, par contre, voilà, c'est ce qui s'entend, c'est peut-être l'essentiel.
Ah bah oui, c'est
et
ce qu'on préfère.
L'édition Be With Records,
la musique avant tout.
Voilà, est beaucoup plus cotée, elle est beaucoup plus conseillée. Je vous propose d'écouter leur premier morceau, Time Will Be Your Doctor. Can you hear it?
Yeah.
On était dans le rock and roll, mais très bon. À noter, ouais, dernier morceau, il y a une guest star et en fait c'est un canard. Je vous le passerai peut-être.
Oh, le canard fait des bruits de canard pendant le morceau.
C'est très très bon.
Fuzzy Duck.
Très très bon Fuzzy Duck.
Très très bien effectivement et puis en plus un petit peu fun donc ça gâche rien. Bon là on va délaisser un peu les guitares électriques et les pédales fuzz pour changer un petit peu de style puisque on va rentrer dans le jazz mais pas n'importe quel jazz puisque je vous amène le 8e volet de la série Jazz is Dead que j'ai passé ici je crois. J'espère que je n'en ai pas raté. Il faudrait que je fasse une petite rétrospective.
Oh, je ne sais pas si tu as passé les 7 précédents. Hein. Je ne suis pas sûr.
Les 7 précédents
ouais,
ah oui, tu veux dire tous les 7 précédents
oui.
Mais peut-être que j'en ai raté, bah, auquel cas, voilà, j'ai
t'en
déjà
as passé pas mal, mais pas les 7,
de ma, une petite partie de ma playlist pour les émissions qui vont venir. En tout cas, voilà, 8e volet donc, consacré à Brian Jackson. Donc Brian Jackson qui n'est pas un des Jackson 5, comme l'a suggéré ma fille qui m'a demandé tout de suite, « Papa, est-ce que c'est un des frères de Michael Jackson ?» Et non, non,
bah, c'est
Brian
pertinent.
Jackson,
c'est
tout, ça aurait pu, mais non, ce n'est pas du tout un des Jackson 5. Brian Jackson, il s'est plus connu par rapport à sa collaboration avec Jill Scott Heron. Voilà, c'est lui
dont on a passé le fameux
Revolution Will Not Be Televised. Voilà, toute première émission, je crois qu'on l'a passé sur.
Oui, c'était ouais, vraiment les débuts.
C'était
hein, ouais.
La première émission. Ouais. Il faisait partie de la sélection de la première émission du Manche Disque. C'était il y a trop longtemps. On était jeunes, au moins deux ans. Et donc voilà, donc c'est Brian Jackson qui s'occupait un petit peu des arrangements, de la composition, de tout ce qui était instrumental, alors que Gilles Scott Heron, c'était vraiment la plume qui s'occupait des textes. C'est un poète en fait, un poète qui faisait des poèmes en musique. Et Brian Jackson, c'était son acolyte. Musicien et donc dans cette série dont Jazz is Dead, il s'associe avec deux pointures, Adrian Yonj, illustre producteur, et Ali Saïd Mohamed qui aujourd'hui est aussi producteur mais qui s'est fait connaître aussi dans le plus grand groupe de hip-hop de tous les temps, je pense, mais je suis pas le seul à le penser, qui s'appelle Tribe Called Quest, le fameux groupe de Q-Tip qui faisait partie de la Native Tongue, tout ça dans les années 90. L'âge d'or du hip-hop. Et donc Ali Saïd Mohamed aujourd'hui il s'intéresse au jazz dans ces festivals, ces concerts successifs qu'il a passé, donc qu'il a mis en scène avec Adrian Yonj et où, dans lesquels il a fait intervenir des grandes pointures du jazz et pas que d'ailleurs, aussi de la world music, dont ce fameux Brian Jackson. Et donc on va s'écouter ce que ça donne quand ces trois-là se mettent à composer ensemble, puisque voilà, cette série de disques, elle se caractérise aussi par le fait que ce sont des morceaux originaux composés pour l'occasion, vraiment pour ça. Ça s'appelle « Bain de minuit » en français, s'il vous plaît. «
Bain de minuit ».
Et donc on s'écoute ça tout de suite. poser l'ambiance avec le jazz. Jazz is dead, bain de minuit. Il n'est pas encore tout à fait minuit, sinon on serait parti. On a encore le temps pour peut-être un morceau.
Un morceau un petit peu sexy, sexy.
Un peu sexy, sexy.
Puisque je vous propose un morceau de la bande originale Adolescenza Perversa, un film érotique de 1974 dont on vient de découvrir le résumé sur, Facebook, j'allais dire sur Internet, parce que nous, évidemment, on ne regarde pas de films érotiques, hein, on ne sait pas du tout ce que c'est.
Non, on s'est dit, là, vu le titre et vu la couve.
Très belle couverture.
Il y a moyen que ce soit un peu olé olé, ce film.
Ouais. On se demandait en fait si on était dans la sexy comédie ou l'espèce de thriller glauque. Ça a l'air de commencer plus comme un film érotique, mais ça a l'air un petit peu malsain aussi, quand même, un peu, on va dire.
Quand même pervers, ça, quoi.
Ouais.
Dans les scènes, ça pervers.
En tout cas, c'est le fameux Franco Michalizzi qui se charge de la musique. Donc, un compositeur qui a œuvré dans beaucoup de films à l'époque. C'est réédité par Carosello, c'est une édition limitée. Et ma foi, c'est une BO assez sympathique dont je vous propose de découvrir. Alors là, c'est pas très intéressant, les titres, hein, ils sont numérotés avec M. C'est, c'est lequel d'ailleurs ? C'est le 2. Donc c'est M11, M11. Hein,
disons, tu sais dire 11 en italien, toi.
J'ai fait italien LV2.
Donc on l'a pas dit, c'est un film de José Benazeraf.
Oui, José Benazeraf.
Je suis en train de voir sa tête. Dis donc, il a une sacrée tête, José Benazeraf.
C'est lui qui a fait un film qui s'appelle Le Porc aux Putes ou un truc comme ça, je crois.
Porc aux Putes.
Je crois.
Il fait que des trucs comme ça, lui.
On m'a dit. Hein, moi, je regarde pas ce genre de choses.
José Benazeraf. Je vais vous dire comment il est décrit. C'est un réalisateur, scénariste et producteur de cinéma français. Il est français. Né le 8 janvier 22 à Casablanca au Maroc. Voilà. En fait, c'est un Français.
On est typique dans ces productions vraiment très européennes, avec Eurociné et compagnie, où effectivement c'est des acteurs de plein de pays différents, des productions et des financements de plein de pays différents. Alors quand je dis pays différents, c'est surtout France, Italie, Espagne. Et on va retrouver des productions à l'époque qui sont d'ailleurs tournées dans plein de langues, avec des doublages pour chaque pays. Hein, tandis que résonne une étrange musique dans le studio.
Mais c'est vrai, ça, il y a une musique bizarre qui sonne dans le studio. Ouais. Mais on ne sait pas ce que c'est, je ne sais pas d'où ça vient.
Bon, notre morceau va couvrir ça, je pense.
Voilà, exactement. Et puis, quoi qu'il en soit, nous, on va aussi peut-être se dire au revoir.
C'est un morceau de 4 minutes. Donc,
4 minutes, on a juste le temps de se dire au revoir.
On va se dire à dans 15 jours.
Tranquillement, on va se dire à dans 15 jours, oui, tout à fait. Donc dans 15 jours, pas de problème. On sera de retour avec nos petits vinyles là pour vous faire découvrir des morceaux que vous connaissez pas, vous donner envie d'acheter des vinyles que vous connaissez pas non plus, même si actuellement il y a une petite crise quand même au niveau des prix. Il y a eu un petit bouchon, le fameux bouchon Adèle, hein, comme on est dans le métier, puisqu'elle a pressé 500 000 exemplaires de son album pas super apparemment, et donc tout le reste ça faisait la queue derrière, mais c'est surtout que les prix.
Ouais.
Mais ça devient n'importe quoi. Moi, je vous le dis, je profite de ces dernières minutes d'émission pour vous dire,
coup de gueule.
Messieurs, là, les majors et compagnie, arrêtez.
Vous les ronds de cuir.
Arrêtez. Maintenant, ça spécule dès le premier vendeur, tu sais.
Ouais.
Le gars, il s'est dit, attends, il y en a qui rachètent les 10 chez moi pour spéculer, pour se faire du blé. Moi, je vais spéculer direct.
Je spécule direct.
Hop, je mets direct le disque à 60 balles.
Tournez-vous vers l'occasion, hein, c'est ce que je dis toujours, moi, dans ce genre de truc.
Sur des références ultra rentabilisées qui sont. Des originaux à 12 balles sur le Discogs.
C'est ça. Vaut mieux tourner vers les originaux.
Mais qu'est-ce qui se passe ? Messieurs, arrêtez. Ça suffit, sinon, on va arrêter d'acheter. Enfin, on va essayer d'arrêter d'acheter parce qu'on est dépendant comme à la clope. Enfin bref, voilà, on va essayer de voir comment est-ce qu'ils vont tuer le vinyle une deuxième fois, ces enfoirés.
C'est la poule aux œufs d'or. Hein,
on va faire quoi, nous, après, dans le manche-disque ? On va parler de quoi, ici ?
Ouais, de 78 tours.
On va repasser
de rouleaux de cire.
Voilà, exactement. Bon, allez, sinon on n'aura pas le temps de passer le morceau. Adolescence Perversa, on vous quitte tout glamorous et un peu perversus aussi en même temps, vous allez voir.
Ouais.
C'est délire. Ciao.
Bye bye. Ciao.